France Info.
Bonjour Michel Serres.
Bonjour.
Michel Serres, la semaine passée nous parlions de mélange et vous disiez que la vie est un mélange et que nous sommes nous-mêmes ce mélange et que nous vivons du mélange. Cette semaine, innocent. Chaque jour, on compte des victimes innocentes. Chaque jour, des accusés se disent innocents. Ce mot nous fait penser au nouveau-né, pur et vierge de tout mal, symbole classique de l'innocence. L'innocent, c'est celui qui n'a rien fait de mal, ni dit, ni pensé. Mieux vaut sauver un coupable que condamner un innocent, écrit Voltaire dans Zadig ou La Destinée. On a connu le massacre des innocents, œuvre de Poussin tirée du texte de la Bible sur le massacre d'enfants ordonné par Hérode. Mais il y a des sens secondaires, comme naïf ou simplet, menteur comme l'innocent aux mains pleines. L'innocence est une vertu qui s'accommode mal de la vie moderne, des affaires, des relations professionnelles. Mais Michel, il y a également l'innocence en amour.
Oui, celui qui ne nuit pas, qui n'est pas nocif, si vous voulez, ne passe pas devant les tribunaux. Celui qui passe devant les tribunaux et qui n'a pas nui bénéficie d'un non-lieu. Mais la question est de savoir, celui qui ne peut pas nuire, est-ce qu'il existe? Et pourtant, vous l'avez dit, les saints innocents sont morts dans le massacre en question et pour éviter que l'un d'entre eux devienne le roi alors que la naissance du Christ le prévoyait. Par conséquent, Hérode a fait tuer
tous les nouveau-nés.
Voilà. À la condamnation du Christ, pour suivre les exemples que vous prenez tirés du religieux, Pilate va dire en se levant les mains « Je suis innocent du sang de ce juste ». Et d'ailleurs, certains théologiens, puisqu'on fit la métaphore encore, avaient inventé les limbes qui n'étaient ni le paradoir, ni le paradis, ni l'enfer, pour désigner le lieu où reposent les innocents, c'est-à-dire les enfants morts sans baptême. Vous voyez ? Donc, il y a toute une catégorie d'innocence là, qui est du côté du religieux. Mais je voudrais reprendre les choses vraiment dans leur côté le plus concret. Je prends l'exemple de nos amis allemands. L'Allemagne était, dès le début du XXe siècle, c'est celle qui tenait le premier rang partout. Elle tenait le premier rang en mathématiques, en physique, en chimie. Elle tenait le premier rang en philosophie. Elle tenait le premier rang en peinture, en sculpture, dans les arts, dans la musique, etc. Elle était donc, si vous voulez, ce qu'il y a de mieux du point de vue culturel, c'est-à-dire, d'une certaine manière, l'innocence même. Et tout d'un coup, voilà que la nation tout entière va basculer vers le nazisme et les horreurs que vous savez. Ça pose un problème énorme. Et c'est pour moi le grand problème du XXe siècle. Comment la culture la plus réussie, n'a pas pu empêcher tout ça. Alors, je vous propose un début d'explication. Vous savez qu'à propos du sida, les médecins et les biologistes ont inventé ou ont découvert des individus qui sont malades du sida, mais qui n'en portent pas les effets ni les conséquences. Ils le portent, mais ils sont en bonne santé.
Porteurs sains.
On appelle ça des porteurs sains. Alors, cette découverte de porteurs sains est très intéressante, parce que ça inspire l'idée que nous sommes tous, que nous soyons en personne privée ou en groupe ou nation, des porteurs sains de violence, qui est le pire des mots. Nous avons en nous, individus et en nous, collectifs, porteurs sains de violence. Voilà. Et qu'à une occasion, selon l'environnement, selon les rencontres, selon les circonstances, vous allez révéler ce fardeau qui est caché en vous, et il explose soudain, dévastateur. Vous voyez ? Nous vivons innocents, mais nous pouvons nuire. Vous voyez ? Nous portons en nous ça. Pour revenir d'ailleurs au texte sacré dont nous parlions tout à l'heure ensemble, il faut dire que ce porteur saint ressemble de façon étrange à ce qu'on appelait le péché originel. Vous voyez, le péché originel, c'est précisément ce que nous portons en nous, mais voilà.
Qui n'a pas les mêmes effets sur tout le monde.
Voilà, c'est ça. Le péché originel est une intuition fulgurante sur la nature humaine dont le porteur saint est l'image corporelle. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Maintenant, je voudrais dire que j'ai pris l'habitude d'écrire la vie des grands hommes en mettant le grand homme et en dessous comme dénominateur le nombre des morts dont ils sont responsables. Et là, on s'aperçoit que Louis XIV, combien de morts, Jules César, combien de morts, Hannibal, combien de morts,
Napoléon,
combien de morts, etc. Et par conséquent, si je les mets en dessous, c'est leur dénominateur, c'est-à-dire leur nomination. Et attention, mais maintenant, je dirais volontiers, Pasteur et Fleming, combien de vies sauvent ?
Beaucoup.
Voilà. Alors du coup, vous voyez, on voit très bien que d'un côté, il y a ceux qui ont tellement fait de morts, et de l'autre... Mais qu'est-ce que l'histoire ? L'histoire, c'est la vénération, c'est la célébration des premiers, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, on célèbre Louis XIV, Napoléon, etc. Oui, mais si on fait l'histoire du point de vue des victimes, alors ils ne sont pas innocents, vraiment. Alors, je rêve d'un panthéon où il n'y aurait que des gens qui ont sauvé la vie des gens, au lieu de tuer des gens par centaines ou par milliers, ou quelquefois par centaines de milliers. Voilà. Imaginez un seul panthéon, mais une histoire qui ne retiendrait que ces noms-là.
Voilà un beau rêve, Michel Serres. Merci. Retrouvez le sens de l'info sur franceinfo.fr. À dimanche prochain.